si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Goethe Maurien, auteur que de ta, auteur Pouchour, là, toujours quelques mots dans ma Muttersprache, ma langue maternelle, ça éveille les sens et même les sens interdits. Aïe, tortor. Ravi, très heureux de vous retrouver, chers écouteurs radiophoniques du 102.9 Radio Judaïka. J'ai fait une place ce matin aux papilles gustatives, au goût, aux saveurs. Vous connaissez tous, chères grandes oreilles, la deuxième boisson préférée des Français. Un indice, écoutez un petit peu la petite musiquette.
Esto es para ti, mamita.
C'est connu, non? On parle pas d'eau de Javel, je crois. Hein. Alors, notre indice, on en consomme plus de 6 kilos par an, par personne, ce qui n'est pas rien. Alors, autre petite chose, autre indice, il peut être moelleux, fleuri, moussonné, crémeux, cru, boisé, amer, piquant et même velouté. Vous avez deviné, hein, c'est quand même facile. Notre invité surprise, Sébastien Maurer, en a fait son métier de ce breuvage. Il est cup tester, plusieurs fois champion de France et même finaliste monde. Bonjour Sébastien Maurer, heureux de vous accueillir à nos micros.
Eh ben, merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous pour pouvoir parler de cette boisson.
C'est laquelle ?
Ben c'est le café, évidemment.
On a trouvé, c'est quand même facile.
Hein. C'était pas très
crémeux, bien. Moelleux, tout ça, hein, c'est beau. Et puis la musique de El Gringo, là, qu'on a entendu.
El Gringo, c'est une pub qui a marqué pas mal de générations.
Beaucoup, beaucoup. Voilà.
Pour les plus anciens.
Alors, on parle bien de ce café. Vous en avez fait votre métier, vous êtes testeur, vous goûtez du café à longueur de journée.
Alors oui, mon métier à la base, c'est d'abord responsable qualité. C'est-à-dire être le garant des procédures, le garant des normes par rapport à des cahiers des charges, la réglementation. Mais je trouvais délicat de pouvoir donner la garantie d'un process sans connaître le produit. Et j'ai la chance de travailler dans une entreprise qui fait du café, donc un produit quand même noble. Et bah, ça m'a intéressé, j'ai essayé, j'ai goûté. Et puis au fur et à mesure, j'en ai fait une certaine habileté. Et j'ai pu maintenant intégrer le jury interne et donc procéder à de la dégustation quotidienne.
Très grande responsabilité.
Oui, parce qu'aujourd'hui, le café, c'est un produit relativement simple par rapport à des produits frais. Et donc, l'organoleptique, hein, donc la dégustation, c'est vraiment le facteur numéro un, ce qu'il faut contrôler. C'est ça ce que le consommateur recherche.
On peut dire que cette société s'appelle, c'est une société alsacienne, Café Sati.
Exactement.
Ça veut dire quoi, Sati? C'est société alsacienne de
Exactement, de torréfaction et d'importation. Et la torréfaction, c'est vraiment l'opération, la cuisson, entre guillemets, qui va transformer le grain vert, récupéré de la cerise de l'arbre, en le grain torréfié que vous connaissez habituellement avec la couleur marron que vous allez pouvoir extraire pour faire la boisson.
D'accord, on en parle un peu plus tard. Et cette famille, c'est une famille depuis plusieurs générations, on fait du café chez Sati. Hein,
c'est ça, c'est la famille
Choulet.
Hein, oui, tout à fait.
La maman, le papa, et puis après, là, le fils.
Alors, on est aujourd'hui la troisième génération.
Waouh.
Donc, depuis 1926. Donc, on a commencé, je ne l'ai pas connu, mais là, ça a commencé rue des Frambourgeois à Strasbourg. Et aujourd'hui, on se situe au port du Rhin. Donc le long du canal, où voilà, on torréfie environ 3500 tonnes de café par an.
Ouais, c'est énorme, on ne peut pas le louper. Hein. Quand on passe en Allemagne, là, on voit que ça. Hein.
Ouais, il y a la circulation, donc on ne peut pas rater.
Et puis vous avez agrandi, là, vous avez encore construit les Legos, là, ça s'est un peu agrandi, tout
ouais,
ça.
Ouais, ça s'est agrandi, parce qu'on est sur un quartier quand même en pleine mutation.
Ah ouais.
Et la place d'une entreprise, d'une industrie près de la ville, ce n'est pas évident, mais on a réussi, ils nous ont fait confiance et on s'est implanté pour rester.
Vous êtes bien implanté, là, ouais, c'est vrai. Alors, moi, je me pose la question, là, on en parlait à l'instant, une cerise, ça pousse comment, le café? Sur un arbre, sur des brindilles, dans une forêt? Raconte-moi un
peu. Alors, le caféier, c'est vrai, c'est un arbuste.
Mais qui ressemble à quoi? Qui est comment?
Oh, c'est un arbuste qui va avoir, 2 à 3 mètres de haut.
Ah, quand même?
Ouais, quand même, ça dépend. Alors, évidemment, il pousse à l'état sauvage dans certains pays. Certains pays ont, on va dire, mécanisé un peu ou planté, fait des vraies plantations. Donc ça dépend vraiment des pays. Mais ce qui est très intéressant dans le café, c'est qu'on va récupérer une cerise. Comme nous, on prend des cerises chez nous.
Ressemble vraiment à une cerise.
Exactement.
La même grosseur.
Un tout petit peu plus petit. Et la seule différence, c'est que nous, la cerise, on mange la chair et on rejette le noyau. Et là, c'est l'inverse.
Ah, c'est le noyau, c'est le...
Exactement.
Ah, c'est les le noyau
deux,
qu'on mange.
C'est les deux grains qui composent le noyau, c'est ça qu'on va récupérer et on va jeter la chair.
Ah, c'est une belle image, on comprend bien là. Mmh. Ouais. Et alors, ces champs, ça s'appelle des caféières ?
Alors, on appelle ça des plantations. Des plantations caféières. Alors, comme on disait, dans certains pays, bah, c'est des choses plus ou moins ordonnées. Dans certains pays, on va dire, plus sauvages, ça peut se retrouver dans une forêt. Tu te balades dans la forêt, tu trouves des caféiers, comme on va trouver chez nous des marronniers, des châtaigniers.
Châtaigniers, exactement. Des mirabelliers, tout ça.
Exactement.
Et alors, ça se cueille à la main, ça c'est industriel ou c'est encore à la main comme...
Là aussi, comme je disais avant, ça dépend un peu des pays. Certains pays, en fonction de la typologie et en fonction aussi de la richesse, ont pu mettre en place des méthodes mécaniques. Hein, quand on est sur des plaines, bah, on peut utiliser des machines, mais quand vous êtes sur de la montagne à 2000 mètres d'altitude avec des flancs voilà, pas évident, il faut y aller à la main.
Donc, ça pousse même à 2000 mètres d'altitude ?
Ça peut pousser jusqu'à 2000. Bah, le caféier pousse quand même en altitude, hein, c'est un peu comme le vin. Si l'arbre est planté trop près du niveau de la mer, bah, les chaleurs vont être trop fortes puis ça va brûler. Donc il faut quand même une certaine dose d'humidité.
Condensation,
voilà. Ouais.
Ah, ouais. Et alors, dans quel pays ça pousse ? Votre café, vous l'achetez où, par exemple ?
Les trois continents producteurs, c'est-à-dire l'Amérique, évidemment, l'Amérique latine, hein, donc c'est-à-dire l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Afrique, donc toute la partie, alors Afrique centrale, mais aussi l'Afrique de l'Est, et puis l'Asie, bizarrement. On n'y pense pas trop, mais c'est aujourd'hui des nouveaux producteurs. Alors que je dis nouveaux producteurs, ça fait maintenant 30 ans, mais qui ont tiré leur épingle du jeu et qui sont aujourd'hui, comme le Vietnam, deuxième producteur mondial de café.
Et chez nous, en Alsace, ça ne pourrait pas pousser ?
Pas encore, je ne pense pas.
On
verra, peut-être que dans quelques années, en fonction de ce qui se passe avec le climat, je ne l'espère pas, mais normalement pas.
C'est vrai qu'à côté de votre entreprise, il y a encore de la place le long du canal.
Ouais, mais
on pourrait y implanter.
J'ai peur, malheureusement, qu'on ne soit peut-être pas dans la bonne, dans les bonnes meilleures conditions.
Et donc, c'est cueilli, après, ça passe dans une brûlerie ou comment ?
Alors, il y a pas mal d'étapes, hein, parce que entre le moment où on va récolter la cerise, qui est donc une cerise rouge, hein, puisque le but, c'est d'avoir la cerise mûre pour que le grain soit justement arrivé à maturation, il y a encore toute une étape qui se trouve dans le pays producteur pour récupérer ces fameux grains, les noyaux. Donc on va devoir soit briser cette cerise, ensuite faire des opérations éventuellement de fermentation, hein, pour vraiment enlever tout ce qu'on appelle un peu la chair qui restera autour du grain, pour vraiment avoir un grain vert de bonne qualité. Et seulement après, ce grain vert va être exporté dans les pays. Nous, on va recevoir le grain vert, l'or vert, entre guillemets.
D'accord.
Et c'est là que nous, on intervient pour l'opération de torréfaction. Et c'est cette opération de torréfaction qui va donner l'ensemble de la palette organoleptique de goût que l'on ne connaît. Le grain vert n'a pas d'odeur, n'a pas de goût. Donc le gringo, c'est pas vrai. On peut pas...
C'est quoi l'histoire de El Gringo ? Tu la connais ?
Le gringo, c'était une pub d'une grande marque qui pouvait sélectionner à la main le café vert et dire « Non, c'est pas ce café que je veux, c'est celui-là. » C'est faux. Puisqu'en fait, le grain vert n'a pas de goût, n'a pas d'odeur. C'est uniquement l'opération de torréfaction qui va révéler ça. Alors on peut évidemment, à l'œil, ouais, si le café est vraiment moisi, évidemment, on va dire il n'est pas bon, mais on ne peut pas faire la sélection comme ça, juste à l'œil. Il faut passer par l'étape de torréfaction, c'est ce qu'on fait chez Sati.
D'accord. Mais écoute, on va écouter une petite chansonnette qui va te rappeler des bons souvenirs. Mais nous, voir la petite musiquette là, avec Gainsbar.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter.
C'est joli, hein ? Ça énerve le café, tu crois ?
Non, ça énerve pas. Il faut le boire, de manière délicate, appropriée. Chaque personne a sa propre, son propre rapport avec le café. Il y a des gens qui peuvent en boire toute la journée, même le soir. D'autres, malheureusement, qui ont peut-être un peu plus de difficultés à le supporter en fin de journée. C'est beaucoup d'habitude. Moi, aujourd'hui, si je bois pas de café, ça va être l'inverse. Je vais pas dormir.
Ah oui, moi, c'est pareil. Je suis un coffee down, comme on dit en Alsacien. Mais c'est toujours besoin de boire du café.
La caféine, c'est une espèce de drogue.
Et ça donne de l'énergie.
Comme les fumeurs, ils ont besoin de nicotine. Nous, on a besoin de caféine.
Ouais, café. Alors, parle-moi de ton métier, en fait. De ton métier, on en a déjà parlé, mais tu es 4 fois champion de France de dégustation de café.
Oui.
C'est quoi? Tu bois du café toute la journée?
Alors,
et tu le recraches un peu comme les sommeliers qui...
Exactement. Alors, en fait, il existe, si tu veux, une association au niveau mondial qui s'appelle la SCA, la Specialty Coffee Association, qui œuvre pour la promotion du café de qualité, pour éduquer les gens, former les gens. Et ils ont mis en place différents, on va dire, protocoles pour pouvoir avoir parlé de la même chose dans tous les pays. Et pour faire la promotion, ils ont trouvé la meilleure manière, c'était quoi? C'est organiser des championnats pour parler des métiers autour du café.
Et là, vous êtes nombreux dans ce championnat?
Alors, il y a 6 championnats qui existent. Donc, il y a un championnat de torréfaction, un championnat, ce qu'on appelle de barista, c'est celui qui prépare le café. Un championnat de latte art, c'est celui qui dessine avec le lait des dessins dans le café. Et moi, je fais le cup testing, c'est la dégustation. C'est un championnat qui regroupe, alors au niveau national, on est entre 30 et 40 personnes à participer. Mmh. Donc, souvent, c'est des gens comme moi qui travaillent dans une maison de torréfaction, des baristas. Et donc, l'intérêt, c'est si j'arrive à sortir mon épingle du jeu, à gagner tour par tour sur une compétition qui va durer environ 2-3 jours, c'est avoir le titre de champion de France. Et ça t'ouvre la porte à la même épreuve, mais cette fois-ci au niveau monde.
Waouh!
Et donc là, tu te retrouves avec de nouveau 30 à 40 pays. Donc, il y a le champion de France.
Et ça se passe où alors? À Brumath?
Non, pas Brumath. J'ai eu la chance parce que j'ai eu des champions du monde qui se sont déroulés à Melbourne.
Waouh, c'est pas mal.
C'est pas mal. Je suis allé à Shanghai.
Un beau voyage.
Ouais, c'est un beau voyage. L'Australie, incroyable. Je suis allé à Shanghai. Donc, chaque fois, un pays organise. Donc, on se greffe. Et là, rebelote. Sauf que là, il y a un Américain, il y a un Brésilien, il y a, je sais pas moi, un Éthiopien, un Allemand, un Français.
Et t'es devenu quoi en monde? T'es devenu finaliste?
J'ai fait quart de finaliste à chaque fois.
C'est pas mal. Ouais. C'est bien.
J'ai fait 12e mondial, la meilleure performance.
C'est pas rien. Hein.
C'est pas mal.
On a la chance de t'avoir ce matin derrière le micro. Hein.
Je goûte pas mal de café, tu vois. Je suis encore là, tu vois, je trempe pas.
Ouais, ça se voit pas.
Mais j'ai pas mal d'os là ce matin, c'est pas bon.
Bon, il y a des petites tasses là, regarde.
Il y a des petites tasses, mais elles sont vides, c'est pas bon.
Alors, tu es en train tu m'expliques que tu bois beaucoup de café, tu le goûtes. Alors, est-ce que tu as un palais un peu particulier, comme un palais royal dans...
Alors, je pense que chaque personne a... Tu sais, c'est... Aujourd'hui, la dégustation, ça passe déjà par, évidemment... le goût, mais aussi par le nez. Hein. Attention, il faut bien comprendre que lorsqu'on goûte le café, on fait une espèce de vaporisation, ce qu'on appelle un... Voilà.
C'est quand même une odeur assez forte.
Exactement,
le café.
Et en fait, quand on avale le café, quand on le goûte, on va essayer de vaporiser un peu d'air pour pouvoir justement remonter au niveau rétro-olfactif, puisqu'en fait, le palais va te donner les saveurs classiques, amères, acides, sucrées, salées, mais c'est le nez qui va te donner toute la palette aromatique. Si maintenant tu te goûtes du café en te bouchant le nez, tu n'auras rien. D'ailleurs, comme tous les aliments. Donc, il faut s'entraîner. Chaque personne a une certaine sensibilité. Hein. Il y a des gens, comme je dis, qui ont des fois qui portent des lunettes. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes d'audition. Il y a des gens qui ont peut-être malheureusement un nez ou un palais pas très développé. Donc, je pense qu'il faut une certaine compétence au départ. Et après, c'est du travail, c'est de l'entraînement.
Moi, je goûte... Tu veux dire, c'est la mémoire?
Ouais, il faut se fabriquer une espèce de mémoire olfactive. Donc, moi, je goûte tous les jours des cafés. Alors, ça dépend. Ça peut être 20, 30, 40, 50, des fois
quand
plus.
Même. Mais et que tu avales pas.
Que tu craches, évidemment.
Tu recraches.
En fait, on se cale beaucoup de ce qui... Si vous voyez un peu ce qui se fait dans le vin, aujourd'hui, en France, tout le monde se doute, avec toutes les maisons de vin dégustent du café. En fait, nous, on fait la même chose. Et il faut goûter. Il faut justement essayer de se fabriquer une vraie mémoire pour pouvoir mémoriser les caractéristiques de tel ou tel café. Mettre des mots de vocabulaire aussi, c'est important. Tu le disais en introduction, tu as cité plein d'adjectifs. On essaie vraiment de faire un peu ce que... On se colle un peu sur le modèle du vin. Il y a beaucoup de similitudes.
Il n'y a pas une petite guéguerre entre vous, non? Entre les goûteurs de vin et de café?
Alors, il y a une petite guéguerre au niveau du panel aromatique. Hein, parce que nous, on a tendance à dire que le café, on peut trouver entre 800 et 1000 arômes. Et le vin, un peu moins. Alors, peut-être les gens du vin vont dire l'inverse, quoi.
On parle aussi de terroir, d'argile, du temps, de la météo, tout ça.
Tout ça, alors, on en parle, mais c'est surtout pour nous... des critères de sélection. Puisqu'en fait, on achète le café, malheureusement, comme tu l'as dit, gringo. J'ai pas l'occasion d'aller tous les jours dans les pays producteurs, j'aimerais bien. Il faut que j'en parle peut-être à mon patron. Mais
il te laissera partir, je suis sûr.
Ouais, mais c'est évidemment c'est très compliqué. Aujourd'hui, ça s'achète plus comme ça. C'est un peu comme toutes les matières premières. On achète comment? On achète sur la bourse, avec des ordinateurs. Et par contre, nous, on a ce qu'on appelle des grossistes, hein, des importateurs, qui, eux, font le travail au niveau des pays producteurs qui ont des agents et qui vont nous envoyer des échantillons. Et c'est à ce moment-là que nous, on va faire la sélection des échantillons par rapport à nos besoins et par rapport à nos attentes.
C'est pas comme Jacques Fabre qui va sur place et qui ouvre les sacs et qui le sent.
Non,
et que,
malheureusement.
Quand on a vu la publicité voilà. tout à l'heure, la musique, ce qu'on a écouté.
Exactement. Hein, on le fait, mais malheureusement, on ne le fait pas au quotidien. De temps en temps, on a l'occasion d'aller voir dans les pays les producteurs pour pouvoir un peu échanger avec eux en termes de méthode, en termes de process, pour essayer de les aider, pour aussi comprendre comment ça marche. Et puis pour voir le travail en amont, il faut bien comprendre.
Ouais. Est-ce que toi, tu es plutôt un homme de grain ou de café moulu? Qu'est-ce que tu... C'est quoi ta préférence? Je sais déjà ce que tu vas me dire.
Tu sais déjà, hein, tu te doutes bien. Alors aujourd'hui, moi j'ai encore connu le café chez mes grands-parents, c'était du café moulu, il y avait même encore de la chicorée à l'époque, du café soluble. Aujourd'hui, on est sur une vraie mouvance, je dirais, de consommation avec le café en grain. C'est aujourd'hui évidemment la meilleure méthode. Si demain vous voulez un peu vous faire plaisir, il faut mettre un peu d'argent au départ pour investir dans une machine, mais aujourd'hui les prix sont devenus, on va dire, relativement abordable, entre guillemets.
C'est des machines suisses, là,
mais suisses, bon,
ça
justement.
Ça coûte quand même un bras, ça.
Ouais, mais aujourd'hui, on trouve des machines avec un prix d'entrée autour des 400-450 €. Ça reste déjà une somme, évidemment.
Ouais, c'est...
Mais si vous faites le calcul, si vous êtes un gros buveur de café, vous allez voir en une année, votre machine est remboursée pour une qualité en plus.
On sent vraiment la différence entre le grain et le moulu.
Disons, le problème, c'est que le café moulu, on en fait, hein, donc je vais pas critiquer, mais dès qu'on va moudre le café, on va casser l'enveloppe et donc toutes les molécules aromatiques vont commencer à partir. Évidemment, on va le mettre dans un paquet fermé, étanche, avec une valve pour essayer de le conserver. Évidemment, c'est sûr, on fait ce qu'il y a de mieux, mais le grain moulu à la demande, juste avant la préparation.
C'est encore mieux. Bah, écoute, je viendrai une fois goûter chez toi là-bas, parce que moi je suis très moulu
à
la maison. Mais il faut le mettre dans le frigidaire ou pas, le café moulu, dans une petite boîte spéciale? Pas vraiment.
C'est une recette de grand-mère. Moi je ne suis pas fan. Ce que je conseille, c'est évidemment bien fermer le paquet. Ça c'est très important. Mais dans un placard, tout simplement.
Ouais, j'ai une boîte hermétique que
pas
je
la
ferme.
Peine. Le frigo, ça peut être intéressant pour du café moulu, mais je le déconseille pour notamment le café en grain, parce que le café en grain, il va être encore plus froid, et lorsqu'on va le passer dans un moulin ou un broyeur, on va encore chauffer plus, puisque le fait de broyer, ça va chauffer encore les molécules, et donc le choc thermique va être encore plus grand. Donc ça risque de casser encore les molécules, et on risque pas d'avoir un très bon café. Donc le mieux, c'est comme tu dis, une petite boîte, dans un placard, ça
suffit. Dans un placard, et attendre. Alors il y a aussi autre chose qui est très à la mode en ce moment, c'est le café de George. Petites capsules, là, vous en vendez d'ailleurs, hein, Satie.
Aujourd'hui, c'est impossible de dire, on fait pas de capsules. Aujourd'hui, c'est un mode de consommation. On est dans une société de consommation, tu le sais. Tout doit aller vite, on n'en prend plus le temps. Alors c'est pratique, je vais pas le cacher, c'est super pratique. Quelqu'un qui boit, on va dire, un café par jour, il faut rester là-dessus. Ça sert à rien d'acheter une machine à 500 € qui va s'entartrer parce qu'elle va pas être assez utilisée. Rester sur ce modèle. Mais la capsule, c'est pratique, c'est versatile, on peut changer très facilement de référence. Si on va à Deka, on met une capsule Deka. Mais vous n'aurez pas le même rendu qu'un café en grain. Une capsule, vous
et
avez...
pourtant, c'est goûteux. Quand
c'est goûteux, mais vous avez quand même 5,5 grammes de café.
Pas assez, tu veux dire?
C'est pas assez. Dans une machine classique, vous allez mettre 7, 8, 9 grammes.
Et la petite capsule n'est pas nocive, là, la petite capsule en alu
Là aussi, c'est tout un débat. Les capsules alu, il y a pas mal de marques qui ont un peu...
Voilà,
qui reviennent un peu, parce que mine de rien, le consommateur, il a en tête cette grande marque suisse et donc il aime bien, il se dit tiens, capsule alu, ça va être très proche. Aujourd'hui, nous on a fait le choix de garder encore de la capsule alu mais de partir vers des capsules home compost un peu plus vertueux pour la planète, donc des capsules qui vont être sur de l'amidon végétal et vous allez pouvoir le jeter dans le compost directement. Ça va se dégrader en 6 à 12 mois. C'est des déchets, mais on essaye de travailler là-dessus, hein, et c'est pour ça que le café en grain, j'y viens, c'est encore moins de déchets, pas de filtre, vous achetez des grands paquets, 1 kilo.
Non, mais les ménages n'ont plus le temps de faire du grain, c'est ça le problème. Tout doit aller vite, acheter chez Picard un truc, on achète les petites capsules, et puis
c'est sûr.
Hasta la vista, quoi, tu vois,
Quelqu'un qui fait, comme je te disais, un peu le calcul entre une machine et puis le café en grain, à la fin de l'année, tu vas voir, le coût du capsule, ça coûte cher, hein,
puisqu'il y a
beaucoup de travail, il y a beaucoup de matière. Donc c'est un peu dommage des fois, mais ça a le mérite d'exister, on peut pas dire que...
Ouais, il faut pas le contourner.
Exactement.
Écoute, on va écouter une petite musiquette pour reposer nos oreilles, parce qu'on est très bavards tous les deux, je trouve. Mais nous voir la petite musiquette de Sinatra, là, tu vas voir, Lucas.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice,
you'll see. No potato juice, 'cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of...
C'est joli, hein, cette musique. Tu la connaissais, non?
Alors, Sinatra, oui, mais celle-là, non.
Celle-là, tu la connaissais non. Pas. Ouais, c'est bien de découvrir des nouvelles, des nouveautés. Moi aussi, j'aime bien Sinatra. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mélodies autour du café, hein. Je sais que Barbara, on écoutait tout à l'heure Gainsbourg, Brel, Jonas, les Stones, tout le monde ont chanté le café. Ouais. Ça fait vendre, tu penses? Ou alors les gens ont besoin de café pour faire de la musique?
Ouais, je pense que c'est plutôt ça. Hein. Il y a des personnes célèbres qui sont connues un peu. On parlait de Malraux, des gens qui buvaient beaucoup, beaucoup de café. Donc c'est quelque chose qui est maintenant dans le quotidien. Il y a des gens, si tu leur sers pas de café le matin, alors la journée est foutue.
Ah oui, ah ben non, mais c'est sûr, c'est universel.
C'est universel. Le café... C'est la deuxième boisson, comme tu l'as dit, la plus bue au monde après l'eau.
Moi, je me vois pas le matin à boire mon bol de café, quoi.
C'est vraiment quelque chose.
Et c'est vrai que moi, je sais que je suis sorte coffee down. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a toujours eu du café à la maison qui était sur un... Et puis on se servait, quoi, c'était du café. Alors c'est vrai qu'on est aussi à côté en Allemagne, là, avec le café Kuchen, le café Trinken, c'est une tradition en Allemagne.
C'est vrai qu'on a, en tout cas en Alsace, on a une position géographique très spécifique. Hein. On est proche justement de l'Allemagne, qui sont des plus gros consommateurs de café
que
les Français.
Encore plus que nous.
Les Suisses aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de torréfacteurs en Alsace, hein, parce que c'est un marché quand même...
Combien de grandes familles? Il y a Sati, il y a Rec.
Il y a Café Henri aussi, que tu connais peut-être. Il y avait encore une ancienne torréfaction qui se trouvait près de Mulhouse, qui aujourd'hui a été revendue à des Allemands, justement.
Et Varka, mais, non?
Exactement, Café Varka. Et c'est vrai qu'il y a... On est peut-être la région de France à avoir le plus de torréfacteurs locaux. Donc ça, c'est bien, mais ça veut dire que le marché est dynamique, hein, puisque les Allemands, tout bêtement, il faut savoir que le café est cher en Allemagne. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils font?
C'est encore plus cher que chez nous.
Ouais.
Parce que le café, il a quand même augmenté ces derniers temps.
Il a augmenté parce que c'est la matière première. La matière première, c'est pas une nouveauté. Nous, dans un paquet de café, il y a quoi? Il y a du café. Donc si la matière première, elle est multipliée par deux pour des raisons X ou Y, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, torréfacteurs? Il faut bien qu'on répercute le coût de la matière première sur le produit fini.
Et c'est le transport aussi qui coûte cher, le transport par bateau?
Ouais, alors là, c'est bien sûr, c'est un transport par bateau. Il y a le fret aussi a augmenté, hein, les containers ont augmenté, donc tout a augmenté, les charges ont augmenté, l'énergie a augmenté. Donc malheureusement, bon, c'est évidemment pas Sati qui va faire le cours du café mondial, mais nous, on est un peu suiveurs dans ce cas-là, mais on n'a pas eu le choix de répercuter.
Il vaut mieux reprendre les augmentations, c'est sûr.
On n'a pas le choix. Hein. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas bon pour le marché, ça tu as raison. Parce qu'aujourd'hui, cette période inflationnaire, elle est pas bonne au niveau économique pour tout le monde. Donc nous, on n'a pas intérêt, évidemment, à vendre le café plus cher. Mais à un moment donné, il y a une réalité économique. Et il fallait bien qu'on s'aligne. Sinon, on ne pouvait pas vendre le café en dessous de notre prix d'achat. C'était plus possible. Alors après, à nous, évidemment, d'acheter au mieux. Mais ça, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Comme je te disais, le café est acheté sur la bourse. Et qui est bien malin pour connaître le cours de la bourse le lendemain. Si je le savais, je serais peut-être pas là. Hein. Je serais tranquille.
Alors, je sais, dans les petits bistrots, dans les petits cafés, le prix du café est aussi relativement cher. Hein. Là, l'expresso, c'est 2,50 quand tu vas autour de la place Brandt. Là,
exact.
J'ai pas trop le nom parce que je viens de faire des soucis. Mais là-bas aussi, le café est cher, je veux dire. Pourtant, le coût de revient, c'est quoi? C'est quelques centimes?
Ouais, c'est pas énorme. C'est un peu le problème, je pense que... des fois, on pourrait peut-être faire un effort. En tout cas, ou alors avoir un très bon café pour ce prix-là. Et c'est ça, des fois, le problème. C'est que des fois, on paye cher pour un café relativement médiocre. Si au moins, on vendait un café à 2 euros, mais de bonne qualité, je pense que le consommateur ne dira rien. Et peut-être en prendre un deuxième. Donc, c'est tout bénef pour le gérant ou le restaurant ou le bar. Et ça, c'est vrai que c'est nous aussi, on essaye, en tant que torréfacteur, d'expliquer ce phénomène-là à nos clients. Ils ont tout intérêt à mettre peut-être un peu plus d'argent pour l'achat du café auprès de nous, c'est-à-dire ne pas forcément viser le prix.
Parce qu'au final, les machines à café aussi, non? C'est peut-être important, c'est très important ça.
Nous, en tant que torréfacteur, on influe sur les deux grandes familles, c'est-à-dire la famille sélection café vert et la famille torréfaction. Mais il y a encore le dernier facteur qui est important, c'est l'extraction. Et ça, l'extraction, comme tu l'as dit, elle est faite soit chez toi, le consommateur final, soit chez notre client. Et si l'extraction est de mauvaise qualité, j'ai beau avoir torréfié le meilleur café du monde, le café va pas être de bonne qualité. Donc il faut évidemment former aussi les restaurateurs, avoir des machines entretenues, comme chez toi, c'est comme une voiture. Hein. Si demain ta voiture, tu fais jamais de vidange, jamais de révision, elle va tomber en panne. Une machine à café, c'est pareil.
C'est pareil, ouais. Et alors, tu peux me raconter combien de café tu bois par jour, combien d'expresso tu bois par jour pour ton plaisir, pas pour ton travail?
Relativement peu, finalement. Je dirais, ça doit tourner autour de 4-5 seulement par jour.
Ah, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup, mais parce que j'en bois, comme je te dis, des fois 30-40
Mais toujours en grain, alors. Tu le bois pas avec les petites capsules, si, quand même.
Alors, pour mon plaisir, non. J'ai la chance d'avoir une belle machine, justement, comme tu l'as dit, dans mon labo. Et donc là, je me fais plaisir. Et puis, ça me permet aussi, moi, de goûter. Moi, je suis assez versatile sur le café. J'ai pas un café. J'ai l'occasion de changer, puisque je torréfie des cafés tous les jours. Et ben, dès que j'ai un café intéressant...
Ou d'autres grandes maisons, tu veux dire ? Torréfie du café, pas que pour Satie ?
Alors oui, ça, par contre, c'est autre chose, mais c'est vrai. On fait, évidemment, la marque Satie, elle est distribuée dans le Grand Est de la France.
Donc, vous faites le café REC aussi ?
Ah, on le faisait à une époque, c'est vrai. C'est vrai, c'est véridique. Ça a changé.
C'est votre grand concurrent, j'imagine, non ?
Oui et non. Aujourd'hui, nos grands concurrents, c'est plutôt les grosses multinationales. Hein. C'est les marques suisses.
Café Grand-Mère.
Le groupe Carte Noire, le groupe Laure. C'est des grosses marques, c'est des mastodontes au niveau national qui sont énormes. Nous, évidemment, on est local et c'est un peu notre... C'est avec ça sur lequel on joue, parce que nous, on fait travailler des gens du tissu alsacien, on fait travailler des partenaires, des fournisseurs alsaciens. Et je pense que les Alsaciens sont quand même conscients de ça, ils recherchent ce type de produit.
Je pense, ouais.
Donc c'est là-dessus qu'on peut tirer nos pingles du jeu. Au niveau des prix, on sera jamais, malheureusement, au niveau des grandes marques qui ont des usines peut-être plus modernes, avec des process beaucoup plus automatisés. Donc nous, on va se battre là-dessus, on va se battre sur, le savoir-faire, ça c'est important. Et puis sur le côté local, parce que nous, on a tout intérêt à faire travailler les entreprises qui sont près de chez nous, parce que c'est eux qui vont boire du café et donc qui vont acheter potentiellement du café Satie.
Oui, le café Satie, en fait, c'est vrai qu'il est tellement bien implanté en Alsace, c'est vrai qu'on le retrouve dans toute la grande distribution.
Exactement.
On le trouve partout. Hein.
Aujourd'hui, on est vendu dans toutes les enseignes, comme je te disais, dans le Grand Est de la France, donc environ 10 départements, donc on va jusqu'à aller Besançon, on va dire, dans le sud.
Ah ouais, dans le Grand Est.
Et vers l'ouest, on va jusqu'à, je sais pas...
Et quel est le café le plus vendu chez vous, Satie, en moulu ?
On a un mélange arabica, plutôt de l'arabica, puisqu'aujourd'hui, au niveau de la consommation, il y a quand même une proportion des gens allés vers l'arabica, qui sont des cafés plus fins, plus doux, plus aromatiques. Le Robusta, aujourd'hui, reprend un peu, on va dire, du poil de la bête, parce qu'il est moins cher. Et en période inflationniste, comme tu disais, les gens ils vont malheureusement faire un peu attention à leur caddie. Ils vont peut-être aller vers des cafés moins chers, de moins bonne qualité. Donc nous, on a une gamme assez large, comme tous les torréfacteurs. Il en faut pour tous les prix, pour toutes les bourses, pour tous les goûts.
Écoute, on va écouter une petite musiquette pour finir. Tu m'avais demandé que tu aimais bien les Stones. On va nous écouter un tout petit peu de musique pendant une minute avant pour conclure. C'est joli, hein, les Stones. T'aimes bien aussi, hein. Tu m'as demandé que tu me disais que t'aimais bien les Stones.
J'ai eu la chance de les voir il y a pas mal d'années.
Moi aussi, je les ai vus un jour en concert. Et je crois que c'est la femme de Keith Richards qui s'appelait Angie. C'est pour ça qu'ils ont fait cette belle musique. Écoute, notre émission se termine. Je te remercie d'être venu dans ce beau studio.
Merci.
J'étais très content d'apprendre plein de choses sur le café. C'est vrai que moi aussi, je suis un fan de café. En tout cas, grand merci. Et c'est quoi l'avenir de Satie ? Vous allez inonder tout le marché mondial ?
Non, je pense que c'est continuer à faire du café de qualité. C'est vraiment important. Et puis répondre aux attentes des consommateurs qui sont variantes et il faut innover aussi, important.
Il est bavard, hein, notre ami. C'est très très bien. Moi, je suis ravi d'avoir des gens bavards au micro. À la semaine prochaine, on se retrouve à la même place, à la même heure, mais pas du tout avec un autre invité. D'ici là, ciao ciao.
C'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini.